Bienvenidos a este informativo de Radio
France International. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilac.
Mira.
Pour la visite historique du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord. Elena Gabrielan de la rédaction russe.
Добрый вечер.
À propos de la situation des réfugiés en Russie. Et Asbel Lopez de la rédaction hispanophone.
Olé.
Concernant celle des Sud-Américains. Bonsoir à vous. Avant cela, intéressons-nous au fait que rien ne va plus entre les États-Unis et l'Iran. S'oriente-t-on vers une guerre entre les deux pays, sachant que l'armée iranienne a abattu un drone américain et que Donald Trump avait donné l'ordre de bombarder une dizaine de cibles, mais il a annulé l'opération, il a annulé son ordre 10 minutes seulement avant les frappes, quand il a appris qu'elle ferait 150 morts. Alors, Elena Gabrielan, comment la Russie, étant le partenaire stratégique de l'Iran, réagit à cette escalade dans la tension?
La Russie appelle Téhéran et Washington à la retenue. Juste après l'incident avec les deux tankers touchés par des explosions le 13 juin en mer d'Oman, Moscou considère que la situation est inquiétante et d'ailleurs à ce moment-là a demandé une enquête. Vladimir Poutine espère qu'il serait possible d'éviter un conflit armé entre deux pays. Lors de sa séance annuelle de questions-réponses avec la population en direct à la télévision, le 20 juin, le président russe a mis en garde contre une catastrophe en cas de recours à la force des États-Unis.
Это привело бы к всплеску насилия.
Que déclare le président russe?
Alors, selon Poutine, cela provoquerait une flambée des violences et la hausse du nombre des réfugiés dans la région. Il pense que les conséquences seraient tristes aussi pour ceux qui feraient une telle tentative. Il est très difficile d'évaluer ce qui peut arriver en cas de recours à la force. L'Iran est un pays chiite, rappelle Vladimir Poutine. Même dans le monde musulman, il est connu que les chiites sont prêts à aller à l'extrême pour défendre leur pays, le président russe. Donc personne ne peut savoir quelle serait cette action extrême ni ses conséquences. La Russie souhaiterait éviter ce scénario. Et en ce qui concerne l'Iran, selon Poutine, ce pays remplit entièrement ses engagements vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique et Moscou juge infondée la mise en place de sanctions quelconques à cet égard.
Alors en cas de conflit, est-ce que la Russie serait prête à soutenir militairement l'Iran, Elena?
Alors pour le moment, Moscou ne s'est pas exprimé sur ce sujet, mais je rappelle que mi-juin, le président iranien Hassan Rouhani, lors d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Bishkek, a déclaré que la situation au Moyen-Orient exige un rapprochement entre Téhéran et Moscou. Et par ailleurs, selon l'agence russe RIA Novosti, le secrétaire du Conseil suprême iranien de la sécurité nationale, Ali Shamkhani, a annoncé qu'en cas de besoin, Téhéran négociera avec Moscou l'acquisition de systèmes de défense antimissiles russes S-400. Auparavant, l'agence Bloomberg, selon ses deux sources anonymes, a annoncé que Moscou avait refusé de vendre ces systèmes de missiles anti-aériens à l'Iran. Le vice-premier ministre russe, Yuri Borisov, par la suite a fait savoir qu'il s'agit des rumeurs et que la Russie n'avait reçu aucune sollicitation à cet égard de la part de Téhéran.
Hermine Roumilac, cette tension a quelque chose de déjà vu, non?
Oui, comme vous avez dit que la tension est à son maximum, on ne peut pas deviner pour l'instant l'issue de cette tension, mais ce n'est pas la première fois que les États-Unis font face à ce genre de situation depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y a eu, tout le monde sait, la Corée du Nord, dont le jeune dirigeant Kim voulait défier Donald Trump avec une série d'essais nucléaires et de missiles sans arrêt. Donc on craignait une guerre ouverte il y a 2 ans, mais tout d'un coup Kim a surpris tout le monde en acceptant de rencontrer Donald Trump à deux reprises même, malgré l'échec de leur rencontre ce mois de février à Hanoï. La tension a considérablement baissé dans la région. Ensuite, il y a eu la guerre commerciale avec la Chine qui a fait trembler aussi le monde entier, surtout le monde économique. Et au début du mois de mai, la tension a monté encore d'un cran quand Donald Trump a décidé de surtaxer 250 milliards de dollars de produits venant de Chine. Et donc, après un mois et demi de silence insupportable, le dirigeant chinois a annoncé enfin qu'il allait rencontrer Trump à Osaka pour reprendre probablement encore des négociations. Apparemment, ça marche, la politique d'extrême tension avec les autres pays.
Est-ce que la Chine, qui est un des signataires de l'accord nucléaire, signé en 2015, elle n'est pas indifférente à ces tensions entre Washington et Téhéran, non, qui ont à la base cette histoire d'accord sur le nucléaire
iranien? Très intéressée, hein, parce que la Chine entretient toujours de la bonne relation avec l'Iran, et surtout pendant cette fameuse période de guerre commerciale avec l'USA. Donc au mois de mai, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est rendu en Chine pour chercher de l'appui de Pékin face aux États-Unis. Et la semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a également rencontré son homologue iranien pendant sa visite en Asie centrale. On peut deviner que l'USA est au centre de leur conversation sur. Et néanmoins, la position de la Chine est exprimée par le ministre des Affaires étrangères chinois, M. Wang Yi. On l'écoute.
Il exprime donc la position officielle du gouvernement chinois.
Oui, donc c'est un peu langue de bois. Donc il conseille de ne pas prendre des mesures qui risqueraient d'attiser la tension régionale, ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Il appelle aussi aux États-Unis de changer la stratégie de tension maximale pour régler les problèmes, puisque cela mènera aux plus grandes crises encore.
Alors on sait aussi que Donald Trump a bloqué toutes les exportations d'énergie de l'Iran. Est-ce que le gouvernement chinois respecte ces consignes?
Apparemment non, parce que en fait la Chine achetait aux États-Unis environ un cinquième de son GPL avant que Washington augmente des tarifs douaniers à 25%. Donc après, la Chine s'est tournée vers l'Iran pour acheter son énergie. Donc le président Trump a bloqué les exportations d'énergie de l'Iran au mois de mai. Mais le site américain Bloomberg a révélé cette semaine qu'il y a au moins 5 supertankers qui ont chargé de GPL iranien au mois de mai et juin pour se rendre en Chine. Donc il y a équivalent de 100 000 millions de dollars de ce gaz qui sont partis pour la Chine.
Asbel Lopez, Donald Trump vient de lancer la campagne électorale pour sa réélection, et selon vous, il veut exploiter cette crise iranienne pour des intérêts finalement électoralistes, hein?
En effet, rappelez-vous, entre 2011 et 2013, Trump avait dénoncé à plusieurs reprises Obama de se préparer à attaquer l'Iran pour montrer comment il est fort et pour se faire réélire. En 2019, c'est désormais Trump qui veut se montrer fort pour se faire réélire, même plus fort qu'Obama. Aujourd'hui, le New York Times nous rapporte que Trump a été à un doigt de déclencher une guerre contre l'Iran.
Et on voit que Trump s'est ravisé 10 minutes avant les frappes. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il puisse y avoir encore une escalade de la tension et une guerre.
Oui, vous avez tout à fait raison, Philippe, et j'étais moi-même étonné de lire dans la presse il y a quelques jours la formule d'un chercheur qui s'occupe de l'Iran, Ali Baez, de l'International Crisis Group. Pour lui, si une guerre entre l'Iran et les États-Unis n'éclate pas dans les 2 ans, ce serait un miracle. D'autres spécialistes craignent un dérapage dans cette guérilla maritime entre Américains et Iraniens. Oui, il y a certainement un risque d'accrochage. Bon nombre d'experts et diplomates soulignent aussi l'échec de la pression maximale de Washington sur Téhéran. L'ancien vice-président Joe Biden, candidat à la Maison Blanche, estime que la stratégie de Trump face à l'Iran est un désastre, car elle a rendu un conflit militaire plus probable en s'éloignant de la diplomatie. Biden a peut-être raison, Trump s'éloigne de la diplomatie, mais il se rapproche de son électorat en vue des élections de 2020.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette crise, cette escalade de la tension entre les États-Unis et l'Iran. Vous écoutez Accent du Monde.
This is Radio France International.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. Le président chinois Xi Jinping qui est en Corée du Nord. C'est la première fois depuis 14 ans qu'un président chinois donc visite ce pays voisin et allié. Hermine Roumilac, comment a-t-il été accueilli dans le pays le plus isolé du monde?
Le pays plus isolé et très opaque aussi, parce que la presse étrangère ne sont pas invitées pour couvrir cette visite. Donc il a fallu attendre quand même 7 heures pour découvrir dans la télévision chinoise les premières premières images de l'arrivée de Xi Jinping et sa femme en Corée du Nord. Donc pour les téléspectateurs chinois, c'est un peu comme un voyage dans le temps, c'est-à-dire il faut retourner au moins 40 ans en arrière, puisque la foule liesse de joie, bouquet de fleurs dans les mains des gens, slogan omniprésent dans les rues de Pyongyang. C'était un peu à la manière de la révolution culturelle dans les années 60 et 70 quand même. Donc le couple présidentiel chinois a été accueilli en grande pompe par leur jeune hôte. Je vous donne quelques chiffres. Donc il y a 10 000 personnes à l'aéroport pour applaudir l'arrivée des couples présidentiels chinois. Bien sûr, 22 coups de canon et pas moins de 250 000 Nord-Coréens qui sont alignés tout au long du chemin de l'aéroport qui mène à l'hôtel.
Donc ça, c'est la foule qui clame le nom de...
Bienvenue, bienvenue, tout ça et... Visiblement, le chef de Corée du Nord connaît bien le président chinois parce que ce genre de cérémonie devrait rafraîchir les souvenirs de la jeunesse de M. Xi Jinping. Apparemment, il est content dans sa limousine. Il était debout avec Kim à côté pour saluer la foule.
Ah bah, donc on c'était... se sent important qu'on ait acclamé de cette manière. Oui. Quel est l'objectif du président chinois ?
En fait, à part que les deux régimes sont communistes et totalitaires, ils ont quand même un point commun, c'est-à-dire ils doivent en ce moment affronter actuellement tous les deux les États-Unis, ou plutôt le président américain Monsieur Trump, parce que Pékin pour la guerre commerciale et Pyongyang pour le dossier épineux de la nucléaire dans la péninsule.
Dans les deux cas, on peut dire que ces deux dossiers sont au point mort.
Exactement, pour les intérêts américains, Trump est intransigeant avec les deux. Ses deux amis qu'il appelle, mais les portes ne sont visiblement pas fermées en ce moment, donc parce que la Corée du Nord peut encore espérer pouvoir lever les sanctions des États-Unis et de l'ONU, et la Chine aimerait bien ne plus être taxée davantage pour ses produits exportés aux États-Unis. Mais dans cette relation triangulaire, la Chine et la Corée sont devenues mutuellement l'atout ou bien la carte pour affronter le président américain.
Avant cela, avant d'aller en Corée du Nord, le président chinois s'était rendu en Russie et en Asie centrale.
En Corée du Nord, il voulait chercher des alliés pour contrer M. Trump. C'est ce qu'a confirmé aussi M. Wang Jingtao, qui est dissident chinois exilé à New York. On écoute ses explications.
Que dit-il ?
Alors, il dit, face à la pression extrême de M. Trump, plusieurs boîtes de Pandore sont ouvertes dans le monde entier. Donc, la Chine a besoin de reprendre les cartes utiles pour faire face, y compris la Russie, la Corée du Nord, l'Asie centrale. L'Asie centrale, c'est pour la nouvelle route de la soie au cas où il y aura le conflit dans la mer du Sud. La Corée du Nord est une des cartes de la nouvelle stratégie géopolitique de M. Xi Jinping.
Voilà donc pour l'analyse de cet expert sur ce qui se passe dans cette région de l'Asie. Nous terminons sur un proverbe chinois, Hermine Roumilac.
Oui, un proverbe chinois prononcé par président russe, M. Poutine, quand on lui a demandé comment il voit l'allié avec la Chine. Voici sa réponse. Il a cité un proverbe chinois, quand les deux tigres se battent, le singe intelligent ne fait que les regarder.
Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est bien c'est noté, clair. Ça fait réfléchir. Hermine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. Cette semaine, le Haut Commissariat pour les réfugiés a rendu son rapport sur le nombre de déplacés, de réfugiés dans le monde, qui a atteint un chiffre record en 70 ans, puisque ce sont près de 71 millions de personnes qui doivent et qui vivent en exil. La rédaction en espagnol s'est particulièrement attachée au fait qu'il y a aussi des situations compliquées pour les réfugiés en Amérique latine. Asben Lopez, même si cela ne s'impose pas de prime abord. Hein.
En effet, Philippe, il est vrai que dans les top 5 des principaux pays d'accueil des réfugiés ne figure pas aucun de l'Amérique latine. Ce sont l'Allemagne, le Soudan, l'Ouganda, le Pakistan et la Turquie. Mais nous avons en effet des situations très difficiles aux Amériques. Au premier semestre de cette année, on estime à 300 000 le nombre des réfugiés qui sont entrés au Mexique par des chemins comme celui de Tapachula au sud de Chiapas pour aller après vers les États-Unis.
Alors ça, c'est le constat à l'instant T. Est-ce qu'il y a une évolution de la situation?
Enfin, des ONG dénoncent des contrôles plus stricts et des conditions d'accueil plus difficiles. Les capacités d'accueil dans les centres pour les migrants au Mexique, las estaciones migratorias, sont insuffisantes. Les migrants sont victimes de la torture et d'un traitement inhumain, selon un prêtre qui s'occupe de ces réfugiés que nous avons interviewés.
Et puis la situation ne s'améliore pas non plus, Asbel, pour les Vénézuéliens qui continuent de fuir leur pays par milliers.
Oui, tout à fait. Au début de la semaine, les chiffres de Vénézuéliens arrivant au Pérou ont explosé à cause d'un changement de la législation dans ce pays. Depuis le 15 juin, en effet, le Pérou leur exige passeport et visa, dite visa humanitaire. Près de 10 000 Vénézuéliens ont traversé la frontière les jours précédents à cause de ce changement de législation, car la plupart de ces réfugiés vénézuéliens n'ont pas de passeport et encore moins de visa. Écoutez ce que nous a dit Regina de la Portilla, porte-parole du HCR au Pérou.
Estamos viendo más niñas, niños, adolescentes.
Que fait le constat? Quel est le constat de cette porte-parole donc, du Haut Commissariat aux réfugiés?
Que la plupart de ces réfugiés en sont partis très vite, à la hâte. Ils constatent aussi un nombre croissant de filles et de garçons, des femmes enceintes, des personnes âgées et même des handicapés. Tous ont besoin d'aide d'urgence, car ils ont marché depuis plusieurs jours, ils ont faim et ils sont malades. Elle fait appel aussi à une plus grande aide internationale, car le Pérou a déjà reçu des milliers de réfugiés vénézuéliens.
Et les Péruviens, qu'est-ce qu'ils en pensent de l'arrivée de ces réfugiés?
Selon un sondage Ipsos Pérou, publié par la presse locale, 67% des Péruviens ne sont pas d'accord avec l'entrée des Vénézuéliens dans leur pays. Mais le journal précise que la majorité des Péruviens qui tissent des liens avec eux changent d'avis. Ils sont presque à 80% à avoir une opinion favorable sur les Vénézuéliens après avoir échangé avec certains d'entre eux.
Ce rapport donc du HCR, on va le commenter avec vous maintenant, Elena Gabriela, avec un autre prisme. L'année dernière, la Russie a battu ce que l'on pourrait appeler un anti-record hein, en termes de nombre de réfugiés sur son territoire.
Oui, étant le pays le plus grand du monde, la Russie a octroyé l'année dernière le statut de réfugié à seulement 30 personnes. C'est le plus faible nombre depuis que la Russie a rejoint la convention relative au statut de réfugié. Je rappelle que c'était en 92. Et aujourd'hui, on compte au total 572 réfugiés sur le territoire russe. Le nombre de personnes qui ont pu déposer la demande a chuté de 40% par rapport à l'année précédente. Et le 20 juin, c'est l'ONG russe, le Comité de l'assistance civique, qui a dévoilé ces statistiques dans son étude annuelle. Et selon ces chiffres, les Afghans occupent la première place en termes de nombre de réfugiés. Les Ukrainiens arrivent en deuxième position.
Et puis, la situation est particulièrement difficile pour les Syriens.
Oui, depuis le début du conflit en 2011, qui a fait fuir plus de 5,5 millions de Syriens, entre 8 000 et 10 000 sont arrivés en Russie. Selon le Comité de l'assistance civique, la plupart sont des réfugiés de guerre. Mais les autorités russes refusent de reconnaître leur statut. Malgré les empêchements administratifs, plus de 2500 Syriens ont pu déposer la demande d'asile et seulement un Syrien, aujourd'hui, a reçu un statut de réfugié en Russie. C'était, je rappelle, en 2012.
Comment expliquer ce chiffre, Elena?
Le comité de l'assistance civique a enquêté sur la dégradation de la situation des réfugiés en Russie. Nous avons joint l'analyste de ce comité, Konstantin Troitsky, qui a justement préparé le rapport de l'année dernière et il a constaté plusieurs irrégularités.
Quelles sont ces explications?
Alors, Konstantin Troitsky dit que tout d'abord, les demandeurs d'asile ont des difficultés d'avoir accès à l'information qui n'est pas disponible en plusieurs langues. Donc, sans aucune assistance, ils ont quasiment aucune possibilité de faire la demande eux-mêmes. Parfois, il n'y a pas de traducteur ni une écoute nécessaire de la part des services migratoires russes qui souvent manifestent un comportement insultant. Souvent, les fonctionnaires créent des empêchements dans le processus de la demande et même sans informer les demandeurs peuvent les enregistrer dans la catégorie de l'asile temporaire, ce qui est une violation de leurs droits. Voici pourquoi beaucoup de gens ont peur de faire cette démarche et par conséquent, le nombre de demandeurs d'asile baisse régulièrement en Russie.
Elena Gabrielan de la rédaction russe de Radio France Internationale. Tout à l'heure, on parlait des relations tendues entre les États-Unis et l'Iran. Eh bien, sachez que les États-Unis demandent la convocation d'un conseil de sécurité priorité au-delà du week-end lundi prochain pour discuter de cette situation. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde, réalisé par Fabrice Violet.